Bonjour et bienvenue dans la mémoire vive du 71e Festival d'Avignon, une chronique qui se replonge dans l'histoire du festival à partir des archives de la bibliothèque de la Maison Jean Villard. Avignon, bonjour. Alors aujourd'hui, pour ma première chronique, je voulais vous parler de mon arrivée dans votre ville parce qu'en cette belle journée du 11 juillet, je vais vous raconter un secret et mon histoire. J'aime les histoires et les secrets. Alors voilà, je viens d'une région qu'on appelle l'Alsace. Je vous dis ça parce que je suis arrivée dans le sud il y a 3 semaines et j'ai pu constater, comme tous les touristes et les festivaliers du monde entier, qu'Avignon est une ville de style, voire parfois un milieu hostile. Non, parce qu'avec des noms tels que le cloître des Carmes, le cloître des Célestins ou la carrière Boulbon, je dirais qu'Avignon et ses environs ont une personnalité unique qu'il faut savoir apprivoiser, comme un animal de compagnie. C'est une ville qui a un charme surprenant et qui séduit toujours de nouveaux publics. Avignon, c'est le répertoire de Claude François. On en trouve des admirateurs à chaque génération. Mais vous, qui y vivez depuis des années, ou qui vous rendez au festival à intervalles réguliers, sachez qu'Avignon peut surprendre les néophytes et les touristes par l'étrangeté de ces lieux. Chaque fois que je me promène, j'observe ces rues, ces bâtiments et son architecture, et les lieux se découvrent. Ils enlèvent leur couverture, et moi aussi, je suis en perpétuelle découverte. Je me découvre chaque fois une nouvelle passion pour eux. Si je devais la décrire, je dirais que cette ville est un grand lieu insolite avec des sous-lieux étranges. Un peu comme une armoire, oui. Avignon est une grande armoire, un bon gros dressing avec de drôles de tiroirs, détenant chacun des secrets et une histoire. Cette histoire, c'est par la magie du théâtre et le secret du spectacle qu'elle se raconte, parce que chaque année, et depuis 71 éditions aujourd'hui, se déroule le Festival d'Avignon. Une histoire se raconte à quelqu'un. Ici, c'est généralement d'une compagnie à un public. Et pour cela, chacun des deux parties se retrouve à un même endroit.
Nous sommes installés ce soir dans le jardin du Pape Urbain V, qui est immédiatement au pied de la masse énorme du château. C'est là que va se dérouler la représentation de l'histoire de Toby et de Sarah de Paul Claudel, qui marquera la seconde journée de la semaine d'art en Avignon. J'aimerais vous dire tout de suite la joie des spectateurs, parce que je ne pense évidemment pas être le seul, la joie de participer à ce festival d'art dramatique que présente Jean Villard. Chaque soir, nous découvrons en effet une œuvre nouvelle, mais nous découvrons aussi un site, un théâtre nouveau, et surtout en accomplissant de soir en soir cette promenade assez solennelle à l'intérieur de l'admirable Palais des Papes, nous avons l'impression vraiment d'en être les hôtes.
France Culture a introduit le festival à ses auditeurs en 1947 en parlant des spectateurs comme des hôtes du Palais des Papes. Mais quelle idée d'aller s'emmurer dans la cour d'honneur pour se raconter des histoires. Quelle drôle d'idée, quelle idée de génie qu'a eu Jean, parce qu'en 1947, pour la première édition du festival et pour la première fois dans le monde, il allait amener le théâtre dans ce grand palais des papes, ce bâtiment impressionnant. Quand je dis « Jean », je veux dire Jean Villard, oui, je me permets des familiarités parce que je la connais bien, je la fréquente très souvent. Je ne vous parle pas de Jean Villard, l'homme, je vous parle de Jean Villard, la maison, et plus particulièrement la bibliothèque de la maison Jean Villard que je connais bien. Là-bas, à 1000 lieues de l'agitation frénétique et électrique du festival et à l'occasion d'une exposition sur les lieux insolites, vous trouvez des photos de toutes sortes de spectacles qui se sont déroulés au Palais des Papes, notamment. Parce que, malgré sa dimension banalisée, le Palais des Papes, comme lieu de théâtre, émerveille toujours et émeut encore. Cette exposition permet de replonger dans les archives de la Bibliothèque nationale de France et on y voit notamment une photographie de Stephen Cohen qui a performé, non pas sur la scène, mais bel et bien sous la scène, de la cour d'honneur en 2012 avec, pardonnez mon anglais, Title Withheld. Un lieu de théâtre, une scène sous la scène. Il fallait y penser. Je te le dis à toi, metteur en scène en activité ou metteur en scène en devenir, à toi qui m'écoutes, pour innover au Festival d'Avignon, il va falloir faire preuve de créativité. Non pas que tout a déjà été fait et refait, c'est simplement que rendre original, la cour d'honneur du Palais des Papes en 2012, par une création inédite et une appropriation unique des lieux, c'est pas donné à tout le monde. Et Stephen Cohen l'a réussi. Le festival totalise 296 lieux de théâtre et de manifestation, 296 espaces d'histoire et de secrets, 296 endroits différents qui ont nourri les spectacles qu'ils accueillaient. Souvenons-nous de la première impression de la Cour d'honneur par Jeanne Moreau lorsqu'elle vient jouer en tant que comédienne pour ce qui fut la première édition du Festival d'Avignon en septembre 1979.
Naturellement, on a posé nos affaires, on s'est précipité dans la cour du Palais des Papes. Et alors là, cette impression à la recherche de laquelle on est toujours, c'est-à-dire ça dépassait l'humain.
Ça dépassait l'humain car un lieu de théâtre s'entoure parfois d'un mystère et d'une poésie qui imprègne totalement le spectacle qui s'y donne. Cette poésie et ce mystère sont les secrets et l'ADN du Festival d'Avignon. Un ADN parfois génétiquement modifié, puisque les metteurs en scène ont déjà créé de toutes pièces un lieu de théâtre pour y jouer leur création. Pour ne citer que lui, Pascal Rambert, en 2000, a présenté son spectacle Gilgamesh dans un champ de tournesol sur l'île de la Barthelasse, à côté d'Avignon. Les Avignonnais les plus aguerris me diront où se trouve ce champ de tournesol à la Barthelasse. Eh bien, je leur répondrai d'aller voir l'exposition des lieux insolites à la bibliothèque de la Maison Jean Villard, puisqu'on y retrouve la seule trace qu'il nous reste de ce champ de tournesol, à savoir des photographies de Philippe Delacroix. Le metteur en scène Pascal Rambert avait planté ce champ avec l'aide d'un agriculteur sur un terrain nu. C'est l'un des seuls metteurs en scène au monde dont on peut réellement dire qu'il a planté le décor. Les acteurs du festival, en réutilisant le patrimoine avignonnais et en utilisant ces lieux d'une manière inédite, ont permis d'inscrire aux monuments historiques de nombreux bâtiments, comme par exemple la chapelle des pénitents blancs en 1991. C'est à se demander si c'est Avignon qui a façonné son festival ou si c'est le festival qui a façonné Avignon. Le festival est indissociable du lieu qui l'accueille. Au final, Avignon et son festival, c'est comme le théâtre et son public. Il faut continuer à se raconter mutuellement des secrets, des histoires, pour qu'ensemble, on redécouvre les lieux qui nous entourent. Et pour connaître et partager les secrets les mieux gardés des lieux les plus déroutants du Festival d'Avignon, je vous recommande l'exposition des lieux insolites du festival, à voir et à revoir au deuxième étage de la Maison Jean Villard. Je remercie Kevin Bernard, étudiant historien qui a effectué son mémoire sur les lieux du Festival d'Avignon, ainsi que Lenka Bokova, conservatrice de l'antenne de la Bibliothèque nationale de France à la Maison Jean Villard, qui ont tous deux rendu possible cette exposition, visible jusqu'au 27 novembre 2017.